Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM avec Avenir. Un moment assez solennel finalement avec le retour. Alors j'aime pas ce terme présentiel, moi je vais dire en chair, en os, des invités. Donc nous allons pouvoir recevoir à nouveau avec le protocole qui va bien. Quel plaisir de recevoir ce matin Sébastien Sousby. Bonjour Sébastien. Alors voyons si ça marche. Est-ce que je me souviens comment ça marche? Salut Sébastien.
Bonjour.
Ouais, ça marche avec le petit micro, la petite protection, accompagné de Pascal Seymour. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour.
Merci de venir sur notre antenne, donc de pas très loin, quoique je ne sais pas ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est l'unité Bastide, service de réhabilitation dont on va faire écho. Alors ça tombe quelque part presque bien parce qu'avant le confinement, mon cher Sébastien, nous avions commencé à mettre en route ensemble une sorte de partenariat avec Radio MDM. On devait venir, on devait faire écho de tout ça. Forcément, tout ça a été interrompu, donc c'est bien de redémarrer avec vous, n'est-ce pas Sébastien?
Tout à fait. Voilà.
Rapproche-toi un petit peu du micro, Sébastien. Voilà. Très bien.
T'es victime un petit peu le partenariat était un peu victime du confinement. Ouais. Beaucoup victime. Mm-hmm. Voilà.
Alors on va faire évidemment une présentation sur cette unité Bastide. Pascal Seymour, cadre de santé, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'unité Bastide à Mont-de-Marsan?
Alors l'unité Bastide, c'est une unité qui prend en charge les adolescents atteints de troubles psychiques et psychiatriques. C'est une unité départementale, c'est-à-dire que c'est la seule du département. Elle compte 12 lits avec deux sous-unités, une sous-unité de 6 lits qui accueille les adolescents qui ont des problématiques aiguës, avec une hospitalisation plutôt courte qui peut aller jusqu'à un mois, mais en fonction de la clinique ça peut durer un peu plus longtemps ou quelquefois moins, et une unité de réhabilitation. Qui accueille aussi 6 adolescents, avec une hospitalisation plus longue, qui peut aller jusqu'à 1 an. Et pareil, en fonction de la clinique, des évolutions, ça peut durer un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais on essaie quand même de se cantonner à cette année de prise en charge qui est déjà significative et très longue.
Mmh. Alors, au niveau clinique, ce sont des pathologies ou des choses de quel ordre, Pascal?
Alors, d'une façon générale, on parle de troubles du comportement. Alors, c'est un terme un peu générique qui dit tout. Et je vous le fais un peu en diagonale, mais chez les adolescents, on pose très peu de diagnostics en psychiatrie, en tout cas, parce que, de façon un peu grossière, on dit que la pathologie n'est pas encore véritablement installée. Mmh. Pardon. Et donc, on parle du trouble du comportement, donc ça revêt toute une panoplie de signes cliniques, mais enfin bon, on sait faire et on fait avec. Donc voilà, des troubles du comportement.
Le parcours de ces ados pour arriver jusqu'à vous, il se passe comment, Pascal?
Alors, c'est un parcours qui est dit très divers, même si la maladie étant ce qu'elle est, on peut retrouver effectivement des communautés d'histoire, si vous voulez. Des gamins qui ont eu des accidents de parcours, avec quelquefois des histoires familiales, quelquefois scolaires. Et pour la plupart, ils sont vus à l'accueil adolescent, Roulès Bazeil, par le docteur Pintard, qui est aussi le médecin de l'unité Bastide, aux côtés du docteur Turki. Et ce sont les médecins qui accueillent soit des gamins qu'ils ont vus à l'accueil ado, ou alors des gamins qui sont confiés à l'ASE, et qui nous sont confiés par la suite. Et c'est ce qui justifie la présence de M. Sousby et de ses collègues éducateurs, qui sont salariés du conseil départemental, mais qui travaillent au sein de l'unité Bastide, avec donc les infirmières, les ASH, les AMP, les aides-soignants.
Combien de personnes au niveau strictement médical dans cet accompagnement, Pascal Seymour?
Alors nous avons deux médecins, Dr Penta et Dr Turki, pour ne pas les citer, et 4 éducateurs, 8 infirmières, 12 aides-soignants, 3 ASH, une psychologue qui accueille quelquefois des étudiants, et nous aussi nous accueillons des étudiants éducateurs, nous accueillons des élèves aides-soignants, enfin ouais. Voilà, tous les étudiants, et on a aussi la chance de travailler avec une psychomotricienne qui nous a rejoint depuis peu, qui fait un travail formidable, et donc toute cette joyeuse équipe s'occupe de ces 12 patients avec dévouement.
Oui, vous avez dit joyeuses équipes, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en découvrir une partie alors très masquée pendant le confinement, puisque vous avez fait l'objet d'un splendide reportage sur le journal Sud-Ouest qui évoquait donc à ce moment-là cette période aussi de confinement que vous avez vécu de façon très particulière au sein de cette unité Bastide.
Très particulière à plus de titres, hein. Très particulière dans la mesure où ça nous est un peu tombé dessus, mais comme tout le monde, hein, mm-hmm. c'est... c'est l'extraordinaire qui vient s'installer comme ça dans nos quotidiens. Extraordinaire parce que il y a une espèce de d'antinomie avec la réhabilitation, qui est une unité qui est tournée vers l'extérieur. Toutes les activités thérapeutiques se déroulent vers l'extérieur. Et donc, le confinement, c'est l'antithèse de l'extérieur, si vous voulez. Et donc, en cela, ça a été extraordinaire. Et puis, enfin, sans compter tout l'aspect inédit de cette maladie qui nous est tombée un peu dessus. Et donc, il a fallu effectivement se réorganiser. Et comme je l'ai dit dans l'article dans le Sud-Ouest, de réinventer les soins. Parce qu'il a fallu proposer aux adolescents des activités qui ne soient pas en extérieur pour le coup, qui soient internalisées, mais qui malgré tout restent thérapeutiques et qui leur permettent, ma foi, d'évoluer et qu'on puisse nous-mêmes les observer, leur proposer des soins adéquats. Ça a été effectivement très compliqué au départ, dans la mesure où c'était très soudain. Il y a eu une période de sidération. Tous les projets qui étaient en cours ont été arrêtés de façon très, très brutale. Donc, il a fallu effectivement que les soignants fassent un peu le deuil. Donc, il a fallu les accompagner. Mais enfin, ils ont été très costauds, très intelligents. Ils ont su réagir assez rapidement. Pour les ados, il a fallu aussi leur expliquer. Donc, on a fait le choix d'être tout à fait transparent, leur expliquer pourquoi on devait porter des masques. Et le masque lui-même est un peu antinomique avec les soins, parce que nous sommes dans la communication.
Ouais, ouais.
Et s'exprimer avec les yeux, quand on a de beaux yeux, comme moi, c'est facile. Mais sinon...
J'osais pas vous le dire, Pascal,
oui,
c'est moi.
Je sais, mais je préfère...
On vous le dit à chaque fois, alors j'imagine.
Tous les jours. Et donc voilà, c'est tout le visage qui est masqué, donc c'était compliqué. En tout cas, on a dû leur expliquer. Et puis, pour toutes les allocutions présidentielles, on a organisé des temps avec eux pour qu'ils prennent connaissance de l'actualité, puisque, ma foi... Ils sont hospitalisés, mais ils ont tout à fait le droit à une actualité en direct, si je puis dire. Et moi, mon grand étonnement, ils ont fait preuve, pareil, d'une intelligence. Ils ont parfaitement compris. Ils ont compris qu'ils n'allaient plus pouvoir sortir non seulement l'activité thérapeutique, mais pas plus sortir en famille. Parce que du côté réhabilitation, les gamins ont droit à des permissions en famille, d'un week-end ou quelquefois un peu plus longtemps. Et ils ont accepté, ils ont joué le jeu. Et ma foi, c'était à la fois charmant, enfin quand je dis charmant, c'est peut-être pas le terme, enfin en tout cas, moi j'étais rassuré dans la mesure où quand même on a trouvé rapidement un équilibre, précaire mais équilibre quand même. On a eu la chance de bénéficier de l'aide de quatre agents de l'accueil adolescent qui sont venus un peu nous renforcer parce que ces gamins donc, qui sont sur l'extérieur, certains sont scolarisés. Ben, comme les enfants de la vie ordinaire, il a fallu faire l'école, alors pas à la maison, mais à l'hôpital. Et donc, l'apport de ces quatre agents de l'accueil adolescent a été plus que précieux. Ça nous a permis de faire une prise en charge quasi en un pour un, ce qui est exceptionnel à l'hôpital. Ils nous ont permis aussi d'avoir une autre vision, leur vision propre de leurs soins, de leur façon de travailler. Et c'était une période un peu compliquée. Et finalement, celle qui se profile, c'est-à-dire celle du déconfinement, est tout aussi compliquée parce que le déconfinement ne signifie pas qu'on ouvre les portes et que les gens entrent chez eux ou qu'on retourne en ville. Ça demande aussi de les éduquer, de faire un point sur les gestes barrières parce que ce n'est pas évident. Ils sont quand même adolescents, j'ai des enfants, c'est pas évident pour des ados. Et donc nous sommes en plein travail pour le déconfinement. Là, a priori, on devrait avoir nos premières permissions ce week-end.
De sortie ?
Absolument. Et donc là, j'ai commencé à créer une petite procédure en lien, évidemment, avec les recommandations de l'ARS et gouvernementales. Mais ce n'est pas simple. Il faut contacter les familles, leur expliquer. Et puis voilà, il faut leur faire confiance aussi. Nous sommes professionnels de santé, les gens ne le sont pas. Et ce que les gestes barrières consistent quand même à des gestes assez techniques, ne serait-ce que de se laver les mains, porter un masque. Le masque, il a une façon de se porter. Donc il faut que nous soyons là en accompagnement pour permettre que les choses se passent au mieux, à la fois pour les familles, pour les adolescents et puis pour les soignants qui les prennent en charge à leur retour.
Sébastien, comment tu as vécu cette période ?
Je pense un peu comme tout le monde, très compliqué au début, parce que nous, on a une particularité aussi de travailler pendant ce confinement. Donc beaucoup ont été en chômage partiel, l'aspect professionnel s'est arrêté. Pour nous, il a continué, il ne s'est jamais arrêté. Donc de travailler en même temps et de vivre ce confinement, plus cette pression de cette maladie, qu'on est très peu de choses encore aujourd'hui, ça a été assez compliqué à vivre, je pense, pour tous les professionnels qu'on était à ce moment-là. Donc on rentre chez soi, on ne sait pas, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc ça, il a fallu quand même un temps assez, assez long quand même, je dirais un mois, la moitié du confinement, pour qu'on arrive à digérer voilà, la situation ambiante, le deuil du, comme disait M. Zemmour, le deuil de une partie de notre travail, d'en recommencer un autre, d'en inventer un autre, ça a été très complexe au début. Et voilà, on était, je pense, un esprit très mélangé, très, voilà, de ne pas savoir, nos situations familiales aussi se sont entrechoquées, ça a été complexe, donc quelque part, nous, on a dit aux enfants, quelque part, on vivait leur même situation, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu des changements de vie pour certains, donc ça a été assez complexe là-dessus. Mmh. Mais on a la chance de travailler avec des ados, donc les ados sont quand même un pouvoir assez de vie assez impressionnant. Donc ils ont été quand même pas mal aidants pour mettre de la vie dans notre service et pour proposer des actions. Et on a beaucoup dit que les jeunes ont moins de capacité, entre guillemets, les gestes barrières, de ne pas comprendre la situation. En fait, je me demande quand même, au final, s'ils ne sont pas mieux sortis que les adultes.
C'est vrai.
Et qu'ils nous ont quand même pu donner une leçon de ressources qu'on ne s'y attendait peut-être pas. Mmh. Donc je pense que ça a été important là-dessus.
Les activités qui étaient mises en suspens, voire même annulées, parce que j'imagine bien que ça ne repartira pas, il va falloir se projeter après sur la rentrée, parce que j'imagine qu'il y a des vacances aussi qui vont arriver. Comment ça se déroule l'été du côté de l'université?
Les vacances, après les vacances, ça dépend de leur projet de soins, c'est-à-dire que certains, comme a dit M. Zemmour, il y a aussi des histoires familiales qui peuvent être compliquées, donc tout dépend de l'histoire familiale, de leur projet de soins. Certains peuvent avoir des vacances tout à fait classiques, de partir une semaine, 15 jours chez leurs parents et revenir ensuite. Voilà, tout est possible. En plus, l'été, nous, on organise aussi des activités, mais qui ont été pour l'instant, c'est toujours en suspens, on n'y a pas réfléchi, on ne sait pas encore par rapport au déplacement. On a eu des projets de camp qui étaient avant le confinement qui ont été tout simplement annulés. Donc là, aujourd'hui, on est quand même dans l'expectative de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer aux jeunes, justement, dans cette période de confinement qui s'arrête quand même assez complexe. Parce que on voudrait bien proposer des choses, mais en fait, on ne sait pas trop quoi. Donc, pour sortir vers l'extérieur, un petit exemple pour la voiture, on a un kangourou 7 places, on peut pour l'instant, on ne veut que sortir avec moitié moins. Donc, ça veut dire que les enfants, une partie des enfants ne peut pas sortir. Donc, c'est assez complexe. C'est presque plus complexe que le confinement.
Tout à fait plus complexe que le confinement. Et. On a aussi, si vous voulez, on réfléchit de notre côté avec notre savoir hospitalier, mais aussi les lieux d'accueil qui nous imposent leurs règles. C'est-à-dire que quand bien même on pourrait sortir avec 7 en Congo, il n'est pas dit, je dis n'importe quoi, qu'être dans une bibliothèque, ils acceptent 7 personnes en même temps. Donc il faut qu'on tienne compte à la fois de nos connaissances, de notre façon de faire, et puis aussi des exigences, ma foi, des autres, un peu comme vous. Vous avez des protocoles d'accueil, mais...
Ouais, qu'on est en train de mettre en route et que vous inaugurez... aujourd'hui sur les ondes de Radio MD, mais ça vous demande donc une réadaptation un petit peu au jour le jour ou sur la semaine des projections comme ça.
Au jour le jour, non. Enfin, il faut quand même.
J'exagérais un petit peu, Pascal. Hein.
On essaie quand même d'anticiper, mais il est vrai que, en tout cas, en phase de confinement, ce qui était compliqué, en tout cas d'un point de vue managérial, c'est que les consignes changeaient d'heure en heure. Ouais. Et là, c'était franchement compliqué de communiquer avec l'équipe. Alors moi, j'essaie d'être le plus transparent possible et de mettre à disposition les informations de façon quasi immédiate. Mais il est vrai que je me suis un peu retenu au milieu du confinement, parce que dire quelque chose le matin à 7 heures et échanger quelquefois de façon assez radicale, les gens étaient un peu perdus, même s'ils comprenaient. Hein, enfin, tout le monde a très très bien compris, mais enfin bon, c'était un peu compliqué de communiquer. Donc, mais en tout cas, on essaie d'anticiper et de se projeter quand même aujourd'hui sur la semaine, voire la quinzaine.
Mmh. Et puis. Les mois, mais là, c'est autre chose encore, parce qu'il y aura sans doute pas de tout ça, quoi. On verra en temps voulu.
Oui, c'est ça. Non, les mois, c'est... Enfin, déjà, au début du confinement, je me demandais ce que serait aujourd'hui. Bon, voilà, nous sommes aujourd'hui, donc il y a de quoi être optimiste. Malgré tout, il faut rester prudent. On parle de deuxième vague qui viendrait, qui ne viendrait pas. Donc, on reste prudent, on continue d'appliquer les gestes barrières. Nous continuons de porter des masques à l'unité Bastide et au sein de tout l'hôpital, de se laver les mains, d'utiliser de la solution de l'alcoolique, puisqu'on a bien compris que c'est peut-être une éclaircie, l'œil du cyclone, mais sans être catastrophiste. Mais enfin, ma foi, soyons prudents et avançons avec prudence.
Réflexion du profane, comme ça, ça ne doit pas être évident de garder une certaine assurance dans cette période que vous avez vécue, avec les interrogations qu'on a tous, parce qu'évidemment qu'on en a tous, et puis il y a toutes ces incertitudes que vous avez évoquées dans cette relation avec ces ados, ça demande un vrai travail de groupe et un vrai travail sur chacun des personnalités.
Oui. Je vous coupe la parole.
C'est accordé, monsieur.
Merci. Vous avez vu la hiérarchie.
Non, mais c'est vrai que là, pour en tant que professionnel, de garder une assurance, ça c'est. Voilà, je pense que c'est une vraie épreuve pour nous en tant que soignants. Là, on doit quand même avoir une certaine référence par rapport aux jeunes. Et il y a des moments où on explique aux jeunes ce qui va se passer le lendemain, qu'on sait pertinemment ce qui ne va pas se passer parce qu'on n'a aucune idée. Donc, c'est de garder cette assurance-là, c'était très complexe. Mais je pense qu'on a. Inconsciemment, on a tous joué je prends jeu avec les patients. C'est-à-dire qu'on a été assez honnête par rapport à nos sentiments, en disant que nous aussi c'est difficile, nos vies nous sont assez complexes, avec des enfants qui ont des difficultés chez eux, de soignants qui étaient asthmatiques, donc voilà, ça ressurgit sur notre prise en charge. Donc on a joué franc jeu avec eux en disant que peut-être ce qu'on fait pas d'habitude, on leur a dit que là on serait quand même assez faillible, donc on a été assez honnête. Je pense que cette honnêteté, sans vouloir faire de la forfanterie, mais ça nous a quand même bien aidé d'être honnête dans ce travail. Je pense que les jeunes l'ont bien compris et ça a permis de garder une ambiance assez sereine.
Pascal ?
Oui, non, tout à fait. Enfin, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Alors, les difficultés, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'était à la fois garder la crédibilité du soignant, tout en étant, au fond de soi-même, assez angoissé, parce que il fallait aussi rentrer à la maison le soir avec toute cette incertitude, ne sachant pas si nous étions porteurs, si nous n'allions pas prendre le virus à l'hôpital, l'emmener à la maison ou inversement. Et malgré tout, la vie continue, la vie professionnelle continue, ça s'impose à nous. Et quand on est professionnel de santé, effectivement, il faut savoir faire quelquefois, il faut savoir taire ses sentiments. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, on dit que la vie privée reste à la porte de l'hôpital. Mais enfin, malgré tout, ça nous a quand même accompagnés dedans, dehors, puisque le confinement, il n'y avait plus de frontières nettes entre le dedans et le dehors. Et il a fallu quand même rester crédible, rester professionnel. Et l'équipe, ma foi, a été, exemplaire. Je ne dis pas ça pour les flatter, mais une équipe exemplaire. Le président de la République a utilisé un vocable un peu guerrier. Moi, je peux vous dire que je n'ai pas eu de désertion. Quand on est cadre de santé, que spontanément, les gens viennent vous dire « s'il y a besoin, je reviens, je pose un jour de repos, mais n'hésitez pas à me rappeler ». Je peux vous dire que ça enlève 70% de la pression que peut avoir un cadre, se disant qu'on a une équipe sur laquelle on peut compter. Alors j'ai senti des moments de faiblesse. On a eu quelques larmes, des larmes un peu thérapeutiques pour nous. Ça nous a aidés. Ça, je pense que pendant un moment, ça nous a fédérés de façon très très forte, parce qu'on s'est dit finalement qu'on se faisait confiance si on arrivait comme ça à verser quelques petites larmes en présence de nous-mêmes. Bon, moi en tout cas, c'est l'aspect sur lequel je veux insister, c'est la mobilisation de l'équipe, son professionnalisme. À aucun moment ils n'ont laissé tomber, à aucun moment je n'ai senti un fléchissement dans la prise en charge. Alors évidemment, Bastide n'est pas le paradis, il y a des difficultés relationnelles qui sont inhérentes à toute organisation. Je pense que la période de confinement n'a pas aidé à faire que les choses soient très différentes. Mais somme toute, dans une situation où l'hôpital était en première ligne, au front, avec des incertitudes, des gens qui ont des enfants qui étaient angoissés pour eux, pour leur famille, des gens qui ont des maris entrepreneurs, tout ça était très compliqué. Mais malgré tout, tous les matins, ils étaient là. Tous les matins, ils faisaient le job, les après-midi, le soir. Enfin, les infirmières de nuit, pareil, qui n'ont pas chômé, qui n'ont pas posé de jour. Enfin, moi, en tout cas, c'était très facilitant et ça entraîne une certaine fierté de travailler avec une telle équipe.
Je vais renforcer la porte ouverte. On en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais c'est vrai que pendant toute cette période et pour l'avenir, le personnel de santé a été un petit peu remis en lumière, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je ne vais peut-être pas m'égarer dans les questions à savoir quid de l'avenir, quid de la façon dont tous ces gens ont ressenti tout ça, tous ces médecins, infirmiers un petit peu partout, aides-soignants et autres, un petit peu partout à travers l'Hexagone. On va espérer quand même, je pense, à minima, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans les orientations prises, si je puis m'exprimer ainsi.
Enfin, ma foi, c'est une promesse présidentielle.
Ouais.
Ouais, après, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière pendant ce confinement par rapport aux difficultés du monde soignant en général. Mais quelque part, je pense que... on espère, après, tout ça, c'est entre les mains du gouvernement et des personnes qui décident, des costumes cravates, comme on dirait. Mais je pense que cette période aussi a permis de mettre en lumière plein de professions. Et bon, il y a bien sûr l'hôpital. On a beaucoup parlé de l'hôpital. Alors c'est vrai, d'une façon, en disant qu'il y avait manque de moyens, mais aussi on a aussi beaucoup parlé de ce que l'hôpital sait faire. Et on a oublié pendant ce confinement ce qu'on savait faire, ce qu'on a pu maîtriser, ce qu'on a pu engager, comme si un personnel engagé. Donc ça a été bien souligné. Et je trouve ça, on va garder sans doute l'aspect financier, l'aspect moyen, l'aspect des difficultés qu'il faut pas nier, mais pas oublier l'engagement et le professionnalisme qui a été fait pendant cette période-là. Mmh. Alors après, nous, on était moins engagés parce que nous, on n'était pas un service Covid, même si on avait des lits qui étaient attribués à ça. Mais si on est solidaire du purcide personnel.
Après la difficulté, le danger, c'est l'accélération et la couverture médiatique qui fait que j'ai l'impression qu'on passe comme ça d'un truc à l'autre. C'est déjà commencé avec l'actualité internationale, on va y faire écho, très cher Pascal et Sébastien, d'ici quelques secondes. C'est un peu le danger, quoi. C'est qu'on oublie très vite tout ce qui s'est passé, toutes les
promesses. C'est sociétal, ça c'est connu, hein. Je pense que l'histoire se répète à l'infini, on fait preuve d'une certaine amnésie, hein. C'est vrai, tout est mis en lumière, il y a une espèce de couverture très aiguë et puis les choses s'estompent comme ça naturellement. Ma foi, c'est peut-être le cours de l'existence, c'est la vie médiatique, c'est comme cela. Bon, après, nous, on continue de faire notre travail avec autant d'engagement. Je veux dire, la lumière, très bien, ça a été peut-être bénéfique pour les soignants, pour le personnel de l'hôpital. Ma foi, après, notre travail, nous, il continue avec engagement, avec force et avec la même passion, lumière ou pas lumière.
Ouais, restez dans le cœur du métier, Sébastien.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a beaucoup parlé. J'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux, là, sur les articles, beaucoup d'articles sur la psychiatrie. Oui. C'est vrai qu'on dit souvent à tort qu'on est le parent pauvre, mais là, il y a eu beaucoup. Alors, je ne comprends pas pourquoi les médias ont pu s'intéresser. On dit, tiens, il y a des gens qui sont confinés dans le confinement, donc ils se sont dit, ça peut être un sujet intéressant. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la psychiatrie, donc peut-être qu'après le confinement, ce serait bien aussi de parler de la psychiatrie quand ça va bien aussi. Mm-hmm. Voilà.
En tout cas, sur Radio MDM, on restera très attentif à tout ça, hein, parce que cette année, par la force des choses, rien ne s'est passé entre nous. Si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il est en train de se passer quelque chose quand même. Mais on restera évidemment ouvert à tout partenariat potentiel, toute proposition pour aller poser nos micros et faire écho de tout ça et construire un joli projet avec l'Unité Bastide. C'est tout ce que l'on souhaite pour cette saison, c'est vrai que j'emploie des termes sportifs maintenant, 2020-2021. Merci beaucoup, Pascal Seymour, d'être venu.
Avec plaisir.
Vous voulez profiter pour envoyer un petit coucou aux ados,
Un petit coucou aux ados et puis à toute l'équipe de Bastide. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est une équipe dynamique, le déconfinement avait à peine pointé son nez que déjà ils sont repartis dans un projet complètement fou. Ouais. Des projets qui se montent généralement sur 6 mois, ils ont décidé de compresser ça en 1 mois. Donc c'est l'émulation. Moi, ça me fait sourire, j'adore. Ouais. Et à tel point que le projet a commencé, mais on ne sait pas quelle forme finale ça aura. Mais ma foi, vive Bastide, vive cette équipe qui ne perd pas espoir. C'est encore une fois très rassurant quand on est manager. Et à toute l'équipe, et puis accessoirement à ma famille, si vous permettez.
Mais je vous permets, parce qu'avec les yeux que vous avez, je vous permets.
Oui, je sais, vous êtes séduit, comme ça.
Comme je comprends votre épouse. Sébastien, ça t'a arraché un petit sourire, là, si vous étiez en train de parler de Pascal. Au niveau du projet, c'est ça
ou, Oui, au niveau du projet, ouais. Parce que il parle du projet, je vais rapidement, du projet théâtre. Ouais. MEDEM a toujours soutenu le projet théâtre depuis quelques années, en insistant, et puis il y avait les jeunes qui venaient parler ici dans la station. Donc là, on tente de faire un film, de relancer en 1 mois ce qu'on fait en 6 mois. Mm-hmm. On a rappelé notre intervenante aussi pour permettre aussi à elle de pas être impactée par le confinement. Donc il y a aussi les personnels, les gens du spectacle aussi qui nous aident. Et, mm-hmm. Donc aussi, il faut penser à eux. Mais on essaie de monter ce projet assez rapidement, de façon un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, peut-être qu'on va porter sur un projet de film documentaire. En fait, peut-être tout à l'heure ça va changer. Ouais, mais ça. Voilà. Mais bon, en Italie à fond la caisse, un peu. Voilà, je pense que c'est une espèce d'exutoire. Donc on y va. Mm-hmm.
Ah oui, il faut s'exploser, ouais, sortir tout ça, quoi.
Il faut y aller.
Une sorte de work in progress aussi, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Merci beaucoup d'être venu. Donc inaugurer cette nouvelle phase aussi pour Radio MDM avec ces invités qui vont venir se succéder. Merci beaucoup. Pascal Seymour, cadre de santé donc à l'unité Bastide. Et puis Sébastien Sousby, alias Maxi Seb, sur les réseaux sociaux où il buzz régulièrement. Un petit mot sur la sortie musicale, Pascal, Sébastien.
Sur la chanson que j'ai demandé, c'est une chanson de Billie Holiday qui apparemment, d'après monsieur Pascal Seymour, n'est pas vraiment de Billie Holiday.
Ouais.
Mais bon, c'est Strange Fruit. Strange Fruit était considéré comme la première protest song, donc la première chanson engagée. Donc avec tous les événements qui se passent en ce moment du côté de nos chers Américains et des manifestations qui se passent aussi en France aussi. Donc voilà, c'est une petite dédicace.
Mmh.
Voilà.
Ça racontait, je crois, l'histoire d'une exécution, d'une pendaison.
C'est ça, c'est ça. Les fruits qui pendent, donc c'est une allégorie par rapport aux pendaisons des Noirs par le Ku Klux Klan.
Ouais. Et ça a été un morceau qui a marqué ce moment et qui a marqué, quoi, tout court, Pascal. Ouais.
Absolument, oui. Enfin, moi, je suis directement concerné, puisque la radio ne voit pas, mais enfin, bon, je pense qu'à mon accent, on aura compris que je suis de couleur ébène. Et bien sûr, je suis sensible à tout ça, mais enfin, je suis sensible à toute maltraitance contre l'humanité.
Je vais me permettre peut-être de petits clichés comme on en avait l'habitude avant pour relayer donc la rediffusion cet après-midi, puis les podcasts. Je vous rappelle que sur le site www.radio-mdm.fr on a tous les podcasts de toutes les émissions qu'on a fait durant cette période et sur celles à venir. Merci de votre engagement, si je puis me permettre,
merci,
messieurs.
Merci à nous.
À très bientôt. Et puis alors je le refais alors, parce que j'avais plus l'habitude. Adi Schatz, quoi.
For the sun to rise. tree to drop. Here is a string.